Alors ce matin, on va poursuivre notre série dans l'évangile de Jean. Donc nous sommes ce matin au chapitre 16. 16 et le verset 16 aussi. Donc 16-16 et nous sommes à la page 701 dans les Bibles blanches de l'Église. Chapitre 16 et le verset 16. Merci. Et avant de lire le passage, je vais prier. Merci notre bon Père Céleste, ce que tu es un Dieu qui parle, qui s'est révélé, qui a donné sa parole aux prophètes, aux apôtres, par l'Esprit. Et merci de nous avoir préservé cette parole, celle que nous avons entre nos mains. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te demander d'être à l'œuvre parmi nous ce matin, par elle, par l'Esprit, pour que nous puissions te connaître davantage, pour que nous puissions t'aimer davantage. Équipe-nous pour servir plus fidèlement ton Fils. Et nous te demandons ces choses au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Donc Jean 16, 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par « encore un peu de temps et vous ne me verrez plus » et puis « encore un peu de temps et vous me reverrez » et « parce que je vais auprès du Père » Il disait donc, « Que signifie ce qui dit « encore un peu de temps » Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Il leur dit, « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent, « Vois maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez juste maintenant ? Voici que l'heure vient et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Et voici notre texte biblique pour ce matin. Alors, quand vous apprenez une nouvelle langue, au début, vous ne comprenez pas tout, hein? Peut-être un mot sur deux, et peut-être encore, peut-être même pas ça. Et vous hochez la tête, vous dites oui, non, de temps en temps, et vous espérez que vous avez dit oui au bon moment. Vous espérez que vous avez quand même suivi à peu près le fil conducteur. Mais très souvent, c'est un peu le flou dans votre tête. Et notre passage de ce matin commence avec ce flou-là. Les disciples sont dans le flou. Jésus parle la même langue qu'eux, donc il n'y a pas de souci à cet égard-là. Mais ils ont quand même du mal à comprendre. Peut-être ils comprennent un mot sur deux. Et peut-être ils n'ont pas vraiment compris le fil conducteur de ce que Jésus a dit dans ce discours de la chambre haute. Et après avoir répéter la même chose plusieurs fois, on le voit au début de notre passage, ça se répète. On lit au verset 18, ils, donc les disciples, disaient donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Et pourtant, Jésus, depuis le début du chapitre 14, ou même dans le chapitre 13, ne parle que de ça. Il parle du fait qu'il doit partir et qu'il va revenir. Mais il ne faut pas qu'on soit trop dur avec ses disciples, parce que quand même, Jésus a parlé de manière voilée. Il le dit même, il le dit dans ce passage. Et dans ce passage, il dit qu'il va cesser de parler de manière imagée ou de manière voilée, de manière en parabole. En tout cas, comme un télescope donne une image plus claire quand on focalise sur un objet, on va voir dans ce passage que les choses vont devenir plus claires, où Jésus les invite ou nous aide à avoir une vision plus claire concernant ce départ et ce retour de Jésus. En plus, il ne faut pas être trop dur avec ses disciples parce que nous-mêmes, si on est lucide et honnête, notre vision, même en tant que chrétien, est parfois un peu floue. Le doute peut nous envahir, à nous aussi. Jésus est parti, nous on ne vit pas la même époque que ses disciples dans ce passage. Jésus est déjà parti auprès de son Père, mais on attend aussi son retour. Et dans le contexte, on l'a vu il y a 2 semaines, la vie chrétienne en attendant est parfois difficile. On est témoin dans le monde, mais ce monde, tout comme il n'a pas aimé Jésus, ne va pas forcément nous aimer si on est fidèle à la parole. Et Jésus, à la fin de notre passage de ce matin, le redit à ses disciples, « Vous aurez à souffrir dans le monde. » Et dans cette souffrance, ce flou peut revenir, ce doute peut revenir. Jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce qu'il va vraiment revenir? Est-ce qu'on a vraiment compris ce que Jésus voulait dire? Et peut-être ce flou est même dans votre esprit ce matin. Ou peut-être ce flou gagnera votre esprit à un autre moment, peut-être dans un moment difficile de votre vie, peut-être dans les souffrances que vous n'avez pas encore connues, parce que chacun de nous ne sait pas, on ne sait pas de quoi nos lendemains seront faits. Dans ce passage, juste à quelques heures de sa mort, peut-être sur les chemins entre cette chambre haute et entre le jardin de Gethsémané, Jésus prend le temps de rassurer ses disciples. Il veut les aider à savoir comment manier en quelque sorte ce télescope de la foi pour voir plus clair. Pour eux d'abord, ses disciples, à leur époque, mais aussi pour nous, 2000 ans plus tard. Et si on veut voir plus clair, on va voir ça dans ce passage, il faut qu'on voit de manière claire et perspicace, et qu'on ne l'oublie pas, que Jésus a vraiment vaincu le monde. Ça, c'est le premier point qu'on va voir ce matin. Jésus a vraiment vaincu le monde. Et ça, ça veut dire qu'il nous a donné à son Père, que nous avons en lui une relation avec son Père. Donc, 2 points ce matin. Plus de doute, plus de flou, parce qu'il est vainqueur. Et ensuite, ça, ça veut dire que nous avons déjà, que nous sommes vraiment au Père, déjà au Père. Donc on va commencer avec cette victoire qui raye le doute et le flou. Alors, on pourrait dire, en lisant ce passage, que ses disciples font quelques progrès. C'est vrai, au début, ça commence vraiment dans le flou. Hein. Ils répètent encore un peu de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça commence à devenir un peu plus clair pour ses disciples. On le voit au verset 28 et 29. « Je suis sorti du Père, dit Jésus. » Je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je retourne vers le Père. Donc Jésus commence à parler d'une manière plus claire, d'une manière moins voilée. Et verset 29, ses disciples lui disent « Ah, vois, maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. » Ensuite, au verset 30, il y a comme une confession de foi. « Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Donc les disciples commencent à voir un peu plus clair, commencent à voir en tout cas que Jésus est bel et bien Dieu, il sait toutes choses, il est omniscient, mais en même temps on voit que Jésus lui-même n'est pas très impressionné par cette confession de foi, parce qu'il dit au verset 31, « Vous croyez juste maintenant ?» La foi, quoique réelle, je pense que c'est quand même une foi réelle, est toujours un peu dans le flou. Et la preuve, c'est ce que Jésus dit au verset 32. Jésus leur dit, voici que l'heure vient et elle est déjà venue. Vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. La déroute, la débandade arrive sous peu, juste quelques heures plus tard. Donc on peut se demander quelle valeur attacher à cette confession de foi. Est-ce qu'ils voient vraiment clair? Est-ce qu'ils ont vraiment mis leur confiance en Jésus? Leur foi est floue et sujette au doute parce qu'ils ne voient pas encore clair. Et ça peut être notre cas aussi, peut-être même, ils ont déjà mis notre confiance en Jésus. Si notre foi est juste une foi plutôt vague en Dieu, ou même si notre foi est en Jésus, mais toujours de manière un peu vague, quand les difficultés surgissent, quand le mépris surgit au travail, ça peut être la déroute, la débandade qui nous arrive comme elle est arrivée aux disciples, juste quelques heures plus tard. Comme eux, on a besoin de voir encore plus clair. Il faut que le télescope de notre foi se focalise sur l'objet précis de notre foi. L'image qui me vient à l'esprit, c'est un peu l'image des généraux dans les batailles d'autrefois, à cheval, un peu à l'arrière, peut-être pendant les guerres napoléoniennes. Ils regardent la bataille de loin avec le télescope, ils scrutent le cœur de l'action et ensuite ils donnent des ordres en fonction de ce qu'ils voient. Parfois même l'ordre de battre en retraite si ils voient que c'est perdu. Mais Jésus veut que ses disciples, à ce moment précis, juste avant sa mort, voient que la victoire sera remportée. Qu'ils focalisent le télescope sur la bataille et qu'ils voient que cette bataille sera remportée. La victoire vient. Et Jean a écrit cet évangile non pas pour les apôtres à cette époque-là, mais pour nous, 2000 ans plus tard. Déjà pour son époque, mais pour nous aussi, 2000 ans plus tard. Et il veut qu'on soit intimement persuadé, convaincu, même ce matin, que cette victoire a déjà été remportée. Et on voit ça au verset 20, Jésus explique cette victoire qui vient, ce qui va lui arriver, mais le sens de ce qui lui arrive. Donc il dit au verset 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Et votre tristesse se changera en joie. Alors, de quoi est-ce que Jésus parle? Tout dans le contexte plaide en faveur de la croix suivie de la résurrection. On est juste à quelques heures de l'arrestation de Jésus. La mort de Jésus plane sur ce texte et les disciples vont expérimenter, ils vont pleurer, ils vont se lamenter. Et ces deux termes-là, dans l'évangile de Jean et ailleurs aussi, renvoient à la mort, à la perte d'un proche, au chagrin de cette perte. Et en effet, le centre de leur univers sera bientôt arraché de manière atroce. Leur monde, leur univers va bientôt s'écrouler avec la mort de Jésus. Et Jésus, dans ce passage, prend le temps, lui qui va subir tout ça, il prend le temps de rassurer, de réconforter ses disciples. Et il les réconforte, il les rassure. En parlant de sa résurrection, de cette victoire à venir. Oui, pour un bref moment, le monde, dans son hostilité à Jésus, va penser qu'il a eu la victoire sur Jésus. Le diable va penser la même chose, mais ils auront tout faux. L'apparente défaite de la croix se changera, se transformera, vite fait, en victoire, en sujet de joie profonde. Jésus dit au verset 33, à la fin, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et comme pour expliquer un peu comment il vint ce monde, Jésus donne une illustration au milieu de ce passage. Il se réfère à un accouchement. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Et lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Alors, certains d'entre vous ont déjà vécu cette illustration. C'est une illustration qui est vraiment saisissante. En effet, la souffrance est grande. Merci Seigneur, il y a des péridurales à notre époque. Mais il y a aussi cette joie après, la joie immense de voir un enfant arriver dans le monde. Et Jésus va passer par cette souffrance-là, un moment d'agonie, peut-être un moment d'apparente défaite, mais il va accoucher. C'est un moment victorieux. Si on pense à toute la Bible, si on pense à Genèse chapitre 3, il accouche d'une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité pardonnée. Un nouvel âge même. Et ça, c'est ce qu'il a expliqué à ses disciples tout au long de ce discours. Il s'en va, il part à la croix. Ça sera un moment difficile, mais il partira par la croix pour la gloire. Et il accouche une nouvelle humanité avec l'Esprit qui est envoyé, avec l'humanité qui va connaître Dieu, qui sera pardonné. Jésus va préparer une place pour eux. L'Esprit va convaincre le monde de jugement, de péché, de justice. C'est un nouvel âge qui commence. Et c'est la mort et la résurrection de Jésus qui changent la donne, qui gagnent, qui raflent cette victoire. Et on le voit même dans notre système de datation. Nous vivons maintenant, aujourd'hui, après Jésus-Christ. C'est l'an de grâce 2019. C'est ce qu'on vit dans l'ère de la grâce, dans l'ère de l'Esprit, dans l'ère de l'Évangile qui va à toutes les nations de la terre. Et quand notre vision devient un peu floue, quand peut-être on semble un peu dans le doute, on a besoin de reprendre le télescope de notre foi et à focaliser ce télescope sur le dimanche matin de Pâques. Jésus, en passant par la croix, a vaincu le monde. C'est là qu'il a vraiment chassé les ténèbres. C'est là qu'il a vaincu le diable. En prenant notre condamnation à notre place, le diable ne peut plus condamner, faire obliger Dieu à condamner ceux qui pêchent, parce que Jésus a pris notre condamnation à notre place, échec et mat, au diable. On peut devenir véritablement des enfants de Dieu pardonnés. C'est ce qu'on a vu au début de l'évangile de Jean, il y a bien des années. À tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole, cette parole a donné le droit de pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, ils peuvent entrer dans ce nouvel âge, faire partie de cette nouvelle humanité, faire partie de cette victoire, participer à cette victoire de Jésus. Et le matin de Pâques en est la preuve. C'est le signe qui confirme cette victoire. Dans quelques semaines, on va le voir. Donc, à Pâques, on sera dans les passage qui parle de la Pâque et on va voir que les disciples étaient dans la joie. La tristesse a été transformée en joie, une joie profonde. Et en effet, personne n'a ôté, enlevé cette joie-là. La résurrection corporelle de Jésus était un événement historique, j'en suis persuadé. Thomas, comme on va le voir dans le texte de Jean 20, on va le voir ça le dimanche de Pâques dans quelques semaines, il en a été convaincu. Il a touché Jésus. Jean, l'auteur de cet évangile qui a écrit ces mots, en était convaincu. Et les autres apôtres aussi. Et cette résurrection les a transformés en héros, en annonciateurs de la foi. Ils ont souffert, parfois terriblement. Jean lui-même a été envoyé en exil sur l'île de Patmos. Certains sont morts. Ils ont vu le Christ ressuscité. Ils ont vu ce Christ victorieux. À mon avis, l'explication, la conclusion la plus raisonnable qui soit, c'est que Jésus est vraiment corporellement ressuscité. On ne peut pas le prouver de manière scientifique, parce que l'histoire ne se prouve pas dans un laboratoire. On ne peut pas tester cet événement et le reproduire. Mais on peut prendre les textes de la Bible et d'autres textes et examiner ces preuves historiques et logiquement, tout plaide en faveur de la résurrection de Jésus, en faveur du tombeau vide. L'apôtre Paul a dit lui-même au philosophe d'Athènes, acte 17, « Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné une preuve digne de foi, en le ressuscitant d'entre les morts. » Et quand notre vision redevient floue, quand le doute commence à regagner nos cœurs, a besoin de reprendre le télescope de notre foi, le focaliser sur Jésus. Mort, ressuscité le dimanche matin de Pâques. Vraiment ressuscité, on peut le croire. Dieu nous a donné un signe digne de foi qui nous montre que Jésus a vraiment vaincu le monde, vaincu la mort, notre ennemi, vaincu le mal, vaincu le malin. Il a vraiment accouché de cette nouvelle humanité, ce nouveau monde. C'est vrai, en attendant la réalisation plénière de ce nouveau monde, quand la mort sera bannie à tout jamais. On vit une époque où il peut y avoir la souffrance, Jésus le dit à la fin de ce passage. C'est la souffrance qui attend les apôtres. On n'a qu'à penser à l'Église persécutée en ce moment, de plus en plus persécutée. Mais en même temps, même dans cette souffrance, on ne vit plus cette brève époque de tristesse, on vit l'époque de la joie, Jésus nous le dit, la joie du Christ ressuscité, vainqueur du mal, du malin et de la mort. On vit la joie en celui qui va revenir, tout comme il est déjà revenu d'entre les morts. On focalise notre foi sur celui qui a déjà remporté la victoire. Et on voit cette victoire le dimanche de Pâques. Et ce fait, attesté historiquement, change tout spirituellement parlant. Déjà, d'ores et déjà, à notre époque, même si beaucoup de choses vont s'accomplir de manière plénière quand il revient, d'ores et déjà, on vit cette victoire. Et on arrive à notre deuxième point. Parce que par cette victoire, on est déjà à Dieu notre Père. La victoire de Jésus, celle que Jésus anticipe dans ce passage. On est juste à quelques heures de cette victoire, quelques jours de cette victoire. Cette victoire change de fond en comble notre relation avec Dieu. Jésus ne veut pas que nous vivions comme ses disciples dans le doute et le flou. Peut-être le doute et le flou d'une relation assez vague avec Dieu. Mais il veut qu'on réalise pleinement que grâce à la croix, grâce à sa victoire, on est vraiment au Père. On est les enfants de notre bon Père Céleste. Comme Thomas va dire au chapitre 20, mon Père, et Jésus va dire, mon Père est votre Père. Dieu est vraiment notre Père. C'est ce que Jésus dit tout de suite après avoir parlé de ce jour de joie, de résurrection. Il dit au verset 23, je vous invite à le lire avec moi. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors, dans un sens, ce genre de passage, je ne sais pas pour vous, mais parfois ce passage nous perturbe, tant soit peu, parce qu'on se dit, ah, Jésus est trop généreux. Il nous donne l'impression que Dieu va dire oui à toutes nos requêtes dans la prière, même les requêtes les plus farfelues. Et tout de suite, on a envie de requalifier un peu ce que Jésus dit. Et constatons d'abord que oui, Jésus est vraiment généreux et il veut être généreux. Et dans ce passage, il évoque plusieurs choses. Il parle d'une nouvelle connaissance. Et ensuite, un peu plus loin, il va parler d'une connaissance, une nouvelle connaissance du Père. Un Père qui nous aime. Et il nous parle aussi d'un nouvel accès auprès de ce Père. Un accès direct et intime. Il dit, ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Et ce jour, c'est le jour de la résurrection. Les disciples sont dans le flou pour l'instant, mais ce jour-là, les choses vont devenir plus que claires. Les écailles qui couvrent leurs yeux, qui obscurcissent leur vision, vont tomber. Ils vont comprendre qui Jésus est vraiment. Le Fils de Dieu, qui est le Messie, le serviteur souffrant. Que Dieu, dans sa bonté, a donné, a envoyé à son peuple pour le sauver. C'est pareil pour nous aussi. Parfois, les gens cheminent avec nous ici à l'église et ils croient déjà en Jésus. Enfin, ils ont une sorte de foi en Jésus. Ils voient en lui un ami spirituel qui les réconforte. Mais c'est seulement quand le télescope se focalise sur la croix et le dimanche matin de Pâques que la foi devient claire. Ah! Jésus-Christ est le Sauveur qui est mort pour mes péchés. Et Dieu l'a fait Seigneur, Maître de l'univers. Il a déclaré Seigneur ce Sauveur qui est mort pour moi. Les choses deviennent claires. Et quand ça devient clair, c'est grâce au Saint-Esprit qui ouvre nos yeux. Et les disciples avaient besoin de cette même œuvre aussi. Et c'est vrai, après la résurrection, ils ne posaient plus la question « Qui es-tu, Jésus ? Pourquoi est-ce que tu es venu ?» Ils savaient à ce moment-là qui il était. Le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur. Ensuite, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et là, Jésus évoque une nouvelle relation avec le Père. Un accès direct auprès d'un Père généreux. Le verset 24 nous montre qu'il s'agit d'une nouvelle relation, parce qu'il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Il parle d'une relation qu'il n'avait pas encore. Le verset 25 nous apprend que nous aurons une connaissance plus intime du Père grâce à Jésus. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Au verset 26, Jésus précise que cette relation sera directe. Oui, on l'a grâce à Jésus, grâce à ce qu'il fait à la croix. Et son œuvre fait que nous pouvons nous présenter directement devant le Père. Lui parler, lui présenter nos requêtes. Et on voit que ce Père n'est pas un Père distant, qui nous tolère en vertu de Jésus, mais notre Père est un bon Père qui nous aime. Jésus ajoute au verset 27, « En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Donc, est-ce que vous voyez ce que Jésus, est-ce que ce que la victoire de Jésus nous donne? Jésus, à la fin du passage, parle de la paix qu'il nous donne, la paix en Jésus. Et cette paix, c'est la paix d'une relation directe, intime, une relation d'amour avec un Père d'amour, lui qui est le Créateur de l'univers, notre Père tout-puissant, saint, juste. On le connaît comme notre Père, notre Père qui nous aime. On a un accès direct auprès de lui. Tout ça nous aide à prier, à présenter nos requêtes auprès du Père, au nom de Jésus. Plus on s'approche de ce Père-là, plus on connaît ce Père-là tel qu'il est vraiment, plus on sait comment prier au nom de Jésus. Le Père veut que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Il veut que nous portions des fruits, les fruits qui viennent de cette sève de la vigne qui est Jésus. Plus on s'approche de ce Père, on sait comment intercéder. Il veut que nous ressemblions de plus en plus à Jésus, que nous portions du fruit. Alors, dans cette série sur le discours de la chambre haute, nous avons parlé de la Trinité. On est toujours dans ce thème-là. On a parlé depuis quelques semaines de Jésus, de l'Esprit, du Père. On a vu qu'il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Jésus n'est pas le Père. Le Père n'est pas Jésus. L'Esprit n'est ni le Père ni le Fils, mais chaque personne est dans les autres personnes. Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est ce qu'on a vu au chapitre 14. Et ici, dans ce passage, Jésus nous apprend que grâce à son œuvre, à la croix, grâce à sa victoire, le dimanche de Pâques, en effet, il est vraiment ce chemin qui nous conduit au Père, qui nous donne un accès jusque-là inconnu auprès du Père. Il nous donne une connaissance du Père, ce Père qui nous aime. Jésus a vaincu le monde, le mal, le malin, la mort, dans le but pour que nous puissions avoir cet accès, pour que nous puissions connaître Dieu comme notre bon Père céleste, pour que nous puissions nous réjouir dans sa présence. C'est énorme. Alors Jésus ne dit pas à ses disciples que tout sera facile par la suite. À la fin de ce passage, il parle de souffrance, il parle de tribulation, selon les versions. Mais il les rassure que personne ne pourra ôter leur joie. Et cette joie, c'est de nous savoir à Dieu. C'est la joie de connaître le Père, de nous savoir au Père, en Jésus. On n'a pas tout à fait terminé cette section de l'Évangile de Jean. Il nous reste la prière de Jésus au chapitre 17. Mais déjà dans cette section, ce passage de ce matin, on a une mini-conclusion pour ce discours de Jésus dans la chambre haute. Et Jésus peut vraiment insister là-dessus. Il vaut mieux qu'il parte, il vaut mieux qu'il s'en aille pour
pour la croix,
pour la gloire, et ça pour que nous puissions avoir cet accès au Père, pour que nous puissions être réconciliés à Dieu et connaître Dieu comme le bon Père qu'il est. Notre foi n'est pas vague ou floue, elle doit être focalisée sur Jésus, le Sauveur qui a vaincu le monde. Et en ayant une foi focalisée sur Jésus, le Seigneur qui sauve, le Seigneur qui a remporté la victoire le dimanche de Pâques, en focalisant notre foi sur lui, Jésus nous conduit au Père. C'est parfois pas toujours facile de comprendre comment réfléchir ça, comment avoir une foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus nous invite à avoir une foi centrée sur lui, en Jésus. Et ça, c'est ce qu'on veut faire le dimanche matin, vraiment centrer tout en Jésus. Jésus, Christ crucifié, qui a remporté la victoire. Notre foi est focalisée sur lui. Et quand notre foi est focalisée sur Jésus, comme avec une cible, avec la croix au milieu de cette cible, qu'est-ce qu'on a? On a le Père. Jésus nous conduit dans la présence de notre bon Père céleste. Il nous donne cet accès au Père, cette connaissance libératrice d'un Père qui nous aime. Jésus est le seul chemin au Père. Quand on suit le bon chemin, quand on a cette foi focalisée sur Jésus, quand Jésus, Christ crucifié, est vraiment le centre de notre foi, on a accès, on a cette relation avec notre bon Père céleste. Et c'est pour ça que Jésus nous enseigne, c'est dans l'évangile de Matthieu, quand il nous enseigne comment prier avec cette prière, le Notre Père, il nous invite à prier directement le Père. Alors on peut prier directement Jésus, il n'y a pas de mal à faire ça. Mais le modèle que Jésus nous donnait, c'est prier au Père. Parce que tout ce qu'il a fait, sa victoire, sa mort et sa victoire le dimanche matin de Pâques, en fait, c'est pour que nous puissions avoir cette relation avec notre bon Père céleste, dans la communion du Saint-Esprit. Il nous donne cet accès formidable auprès d'un Père généreux qui nous aime. Alors, si vous avez tendance à toujours prier directement Jésus, peut-être à la lumière de ce passage, j'aimerais vous inviter de manière amicale, de manière pastorale, peut-être cette semaine à prendre ce passage et à vous adresser directement au Père. C'est la liberté que Jésus nous donne, c'est sa victoire qui nous donne cette liberté. Par cette victoire, Jésus nous a donné une nouvelle connaissance de ce Père qui nous aime. Il nous a donné un accès direct auprès de lui. Pourquoi ne pas, d'une manière consciente, dire « Tiens, je vais changer un peu et vraiment me prier directement le Père, ce Père que je connais en Jésus. » Et on le connaît en Jésus parce que Jésus nous a dit dans cette section de l'évangile de Jean et tout au long de l'évangile de Jean que les paroles qu'il a prononcées pendant son ministère, les œuvres qu'il a faites sont celles du Père. Donc en regardant à Jésus, on connaît le Père. On connaît, il est comme le Fils. Et si telle est déjà votre pratique, vous priez toujours directement au Père, pourquoi ne pas passer un moment cette semaine à vraiment remercier Dieu pour cette liberté que nous avons. Remerciez-le pour Jésus qui a remporté cette victoire. On ne peut pas surestimer la merveille de cette relation directe avec le Père par Jésus. Et quand les moments difficiles de la vie surgissent, quand il y a ces difficultés, peut-être même des persécutions, notre joie est là. Grâce à Jésus, grâce à cette victoire, nous sommes véritablement des enfants du Père, des enfants de Dieu. Et notre force, notre joie viendra de là. Prions maintenant, Dieu, notre Père. Merci notre bon Père céleste pour cette victoire. C'est toi qui as envoyé le Fils. C'est toi qui as donné Jésus pour que nous puissions être ramenés chez toi, à la maison, pour que nous puissions nous présenter devant toi, justifiés, non pas en vertu de notre obéissance, mais en vertu de l'obéissance de Jésus. Merci de ce que dans ta présence, il n'y a plus aucune condamnation parce que Jésus l'a prise à notre place. Merci de ce que nous pouvons venir devant toi librement, sans crainte de rejet. Nous pouvons te connaître comme ce bon Père, comme le Fils prodigue a connu l'accueil de son Père, parce que Jésus a remporté la victoire. notre bon Père Céleste, nous te demandons de nous aider à vivre cette liberté cette semaine, à vivre cette relation avec toi, cet amour devant toi, pour que nous puissions tenir ferme dans les difficultés, tenir ferme dans notre témoignage auprès d'un monde qui ne veut pas de toi, humainement parlant. Père, que notre connaissance, notre nouvelle connaissance de toi, notre Père aimant, par Jésus, nous aide à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Et nous te demandons ces choses au nom de ton Fils et notre Sauveur précieux, Jésus-Christ. Amen.